Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Traque des FDLR, des EDF plutôt en Ituri. La coalition FARDC UPDF bombarde depuis ce matin les bastions de ces rebelles dans la forêt de Lolua, dans le territoire de Mambasa. C'est dans le cadre de l'élargissement de l'opération Tchouja sur la route nationale numéro 4. Le président Félix-Antoine Tshisekedi instruit le gouvernement congolais à s'engager dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Le chef de l'État l'a dit au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 4 juillet dernier. Et puis, 30 jeunes homosexuels et transgenres formés à Bounia comme pères éducateurs, ils vont ensuite sensibiliser leurs semblables sur les modes de contamination et de prévention du VIH-Sida, un programme exécuté par le centre convivial de Bounia. Son médecin responsable, Dr Pascal Kabaseke, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. En Ituri, la coalition des forces armées de la RDC et l'armée ougandaise bombarde depuis ce matin les bastions des rebelles des EDF dans la profondeur de la forêt de Lolua, un centre de négoce situé à environ 100 km au sud-est de Bounia, dans le territoire de Mambasa. C'est dans le cadre de l'élargissement de l'opération Tchouja sur la route nationale numéro 4 vers Mambasa. Les leaders communautaires appellent la population à ne pas accéder dans leurs champs où ces opérations se déroulent. Martial Kizabia Mungu nous en dit plus.
C'est samedi vers 23h, heure locale, qu'un convoi des militaires des FARDC et de l'armée ougandaise UPDF est arrivé à Lolua Centre. Selon des sources sécuritaires, les deux forces se sont déployées sur cet axe pour traquer les ADF qui ont érigé plusieurs bastions dans la forêt de Bakwanza, d'où ils planifiaient des exactions contre la population. Ce dimanche matin, les positions de ces rebelles sont bombardées par les deux forces. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues à Lolua Centre, à Ditongo et plusieurs villages, ainsi que plusieurs entités sur la RN4 et 44, ce qui crée la psychose parmi la population. Des leaders communautaires et des structures de la société civile saluent les débuts de ces opérations qui, selon eux, permettront d'anéantir la menace des ADF contre les civils. Ils souhaitent que cette traque se poursuive jusqu'à l'anéantissement total de ces ADF qui ont longtemps semé la terreur dans cette région. Kasereka Siva Mwenda, député provincial élu de Mambasa.
J'appelle la population à être trop vigilante et surtout de collaborer avec l'armée. Tous devons vraiment mettre la main sur la pâte pour que ces opérations puissent réussir.
Pour l'heure, aucun bilan de ces opérations n'est disponible. Bounia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, le président de la République instruit le gouvernement à s'engager dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Il a ainsi demandé aux ministres sectoriels de prendre certaines mesures avec rigueur et urgence, notamment au sein de l'armée, de la police et des volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo, pour que personne ne s'en dérobe. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit vendredi au cours de la 50e réunion du Conseil des ministres. Voici un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres, lu ici par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Propos sélectionné par Jean Gandou.
Ces faits d'une gravité extrême engagent désormais la responsabilité du commandant tant dans l'armée que dans la police nationale. Personne ne saurait se dérober des actes commis sous son autorité. Même les volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo doivent recevoir des directives claires à ces sujets. Le président de la République a rappelé que notre pays a signé en 2013 un communiqué conjoint avec les Nations Unies, renforcé en 2019 par un addendum contraignant, ces engagements doivent être appliqués sans délai. À cet effet, il a personnellement échangé avec Mme Pramila Patten, sous-secrétaire générale des Nations Unies, pour établir une feuille de route opérationnelle en lien avec le ministère concerné. Ainsi, il a instruit formellement les autorités suivantes à mettre en œuvre des actions concrètes, mesurables et irréversibles. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'exécuter le plan d'action de la police nationale congolaise, de désigner un point focal et d'interdire toute promotion d'agents impliqués. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, d'exclure tout militaire coupable, de documenter les abus et de faire signer des engagements au commandement.
Parlons de cette bonne nouvelle pour la population de la province de la Tshopo. Le scanner des cliniques universitaires de l'université de Kisangani, l'un des rares appareils dans cette entité, est de nouveau opérationnel après plusieurs mois d'inactivité. En cause, une panne technique due à l'instabilité du courant électrique. La remise en service de cet appareil est un véritable soulagement pour la population. Les malades nécessitant des examens à l'aide de cet appareil étaient transférés ailleurs, notamment à Kinshasa, pour une prise en charge adéquate. Ces déplacements coûteux appartiennent désormais au passé, c'est ce que nous dit Jacques Moukonkolé.
Le scanner des cliniques universitaires est opérationnel à compter d'hier. Il est resté hors service depuis plus de 8 mois. L'instabilité du courant électrique avait occasionné la panne de la carte de contrôle, comme l'explique le docteur Junior Mtorumbila, directeur adjoint de cette institution médicale.
Les fournisseurs qui nous avaient vendu nous avaient donné quelques préalables par rapport au courant. Normalement, la machine devait être nécessairement sous tension. Le courant n'était pas là et aussi les groupes n'étaient pas.
Le courant électrique est désormais garanti par l'acquisition de 2 groupes électrogènes. Le premier, d'une capacité de 200 kVA, est une dotation du gouverneur de province. Le second, de 150 kVA, a été acheté après l'indemnisation obtenue du Frivao. Par ailleurs, la même source affirme que la remise en service du scanner apporte un véritable soulagement à la population. En effet, les prix des services vont baisser. Autrefois, ce prix variait entre 200 et 400 dollars américains selon le cas. À partir de demain, un nouveau tarif sera publié au terme de la réunion du comité de gestion. Signalons que l'intervention des ingénieurs dépêchés par le fabricant a permis de décanter la situation après la découverte et le remplacement de la pièce défectueuse. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, nous apprenons que le groupe des femmes sécouristes para-ecclésiastiques lance le projet de la fabrication des braises écologiques. Selon leur coordonnatrice nationale, ces braises écologiques seront produites à base des déchets rassemblés lors de l'assainissement de la ville de Kindu. Cette façon de faire va aussi contribuer à la protection de l'environnement. On écoute à ce sujet José Kimbalanga au micro de Florence Kizalunga.
L'objectif est de remonter seulement l'économie de ces femmes. Parce que parmi ces femmes-là qui travaillent dans l'assainissement, chez femmes secouristes, ce sont les femmes veuves. Et femmes secouristes ont la mission de l'autonomisation de la femme pour que ces femmes veuves puissent se prendre en charge. Après avoir balayé les acteurs de la ville de Kindu, après avoir assaini les grands marchés, après avoir assaini les toilettes scolaires de la ville de Kindu, après avoir balayé la route, ceux qui sont dans la salubrité et les mamans là qui assainissent et le marché central, ils prennent les déchets, ils amènent, c'est avec ces déchets du marché, des avenirs. Maintenant, nous sommes là pour fabriquer les braises écologiques avec. Et nous fabriquons ces braises écologiques avec l'objectif et la mission de protéger l'environnement pour que les gens ne continuent plus à couper les arbres pour fabriquer les braises. Mais aujourd'hui, femmes secouristes, pour la protection de l'environnement, nous fabriquons les braises écologiques avec tous les déchets que nous ramassons.
Rendons-nous au Nord Kivu. Des enseignants des territoires de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo et une partie de Walikale reçoivent progressivement depuis 2 semaines leur salaire via mobile money de la part de la Caritas, l'agent payeur. Cependant, ces enseignants se disent insatisfaits. Ils disent être pénalisés par l'accumulation des arriérés de salaire. Pour certains d'entre eux, par exemple, sur les 6 mois d'arriérés, ils ne reçoivent qu'un ou 2 mois. La majorité des enseignants n'ont pas accès à leur salaire. D'après eux, le problème est loin d'être entièrement résolu. Ils en appellent à la médiation du gouvernement. Écoutez à ce sujet ce syndicaliste du CIECO de la province éducationnelle Nord Kivu 3 sous division Masisi 7, Augustin Sebakaka, et joint par Denise Lukeso.
Les enseignants ont réclamé que la Caritas les paye ces 5 mois en un coup, car le gouvernement a déjà débloqué cet argent encaissé dans les banques et même chez la Caritas pour les 6 mois, donc même le mois de juin. Après 1 mois de réclamation, la Caritas a commencé à payer les récits, les salaires des mois de mars, avril et janvier. Les autres ont reçu les salaires des mois d'avril et janvier. Les autres ont reçu les mois de janvier. Et les autres 0 francs congolais. Et cela, elle paye en compte goutte. Il ne paye pas en une fois. Les frais de fonctionnement et la prime de gratuité, 0 francs congolais. dès le mois de janvier à nos jours. Nous demandons au gouvernement congolais de poursuivre ce dossier car les enseignants continuent toujours à souffrir.
Radio Okapi a tenté en vain d'avoir la réaction de la Caritas à ce sujet. À Kolwezi, la sous-section de l'UNPC, l'Union nationale de la presse congolaise, a lancé hier samedi l'opération d'identification des journalistes et assimilés. Objectif, assainir la profession pour éviter les dérives et lutter contre le phénomène dénommé mouton noir, c'est-à-dire toute personne se réclamant journaliste mais qui ne l'est pas. Paula Munanga nous en parle.
Cette opération est lancée dans un contexte marqué par la prolifération des faux professionnels des médias qui ternissent l'image du journalisme, fait remarquer un journaliste. Le président de la sous-section UNPC Lualaba salue cette initiative qui, selon lui, constitue un pas décisif vers la moralisation de ces métiers. Narcisse Kabamba Waumba souligne, je cite, « Cette opération consiste à purifier la corporation de toute présence parasitaire et de garantir l'intégrité de notre métier. » Fin de citation. Signalons que la deuxième vice-présidente de l'UNPC au niveau national a lancé la même opération à Lubumbashi le 27 juin dernier. À cette occasion, Marianne Mujingiav a donné l'importance de l'identification des journalistes.
Lorsque nous allons passer à l'étape de l'octroi de la carte professionnelle sur toute l'étendue du pays, ceux-là qui sont identifiés, ce sont ceux-là qui auront droit à la carte professionnelle. Au moment venu, nous n'accepterons pas que ceux-là qui viendront pour la carte, que ce soit d'autres personnes que les personnes qui étaient identifiées.
Cette démarche va aboutir à l'organisation des élections des comités sectionnaires de l'UNPC dans les provinces. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi l'intronisation ce dimanche du nouvel évêque du diocèse de Molégbé dans la province du Nord-Oubangui. Il s'agit de Monseigneur Joseph Mopepe, nommé le 15 avril dernier par le pape François, soit quelques jours avant la mort du souverain pontife, le cardinal Fridolin Ambongo, accompagné de quelques évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, procède au sacre de ce nouvel évêque choisi parmi les prêtres originaires du diocèse de Molégbé, un diocèse qui a connu plusieurs successions des évêques et administrateurs apostoliques. Reportage de Asken Zigbiatayoro.
C'est dans la cathédrale de Saint-Antoine de Padoue de Molégbé que le cardinal Fridolin Ambongo procède au sacre de Mgr Joseph Mopepe, âgé de 59 ans. Il remplace à ses fonctions Mgr Dominique Mboula Matari, décédé le 28 août 2024 à Kinshasa, quelques semaines après sa démission à l'âge de 68 ans. Selon les témoignages, le sacre de Mgr Joseph Mopepe est un motif réel de fierté et de joie pour les prêtres et fidèles du diocèse de Molégbé qui viennent d'avoir un évêque issu du diocèse même après tant d'années. Jean Konzi.
C'est juste une réaction de grande joie parce que c'est depuis 1969 qu'on avait eu à ordonner un prêtre du diocèse de Molégbé que je cite de mémoire, Frère Monseigneur Kessing Joseph. Et depuis ce temps-là jusqu'à ce maintenant qu'on est un nouvel évêque qui est prêtre du diocèse de Molégbé.
Le nouvel évêque Joseph Mopepe était jusqu'à sa nomination étudiant doctorant en théologie à l'Université catholique du Congo, UCC. Il est placé à la tête d'un diocèse qui a une superficie de 79 000 km². Un diocèse qui se retrouve d'une part dans la province du Nord-Oubangui et d'autre part dans la province du Sud-Oubangui. Sur place à Molégbé, le souhait des fidèles est de voir le nouvel évêque œuvrer pour l'unité de tous autour de son action évangélique dans le diocèse.
Direction le Kassai oriental. La ville de Mbujimayi revêt sa plus belle robe. C'est à la suite de la reprise des travaux de modernisation de certaines artères, notamment les avenues Inga, Tchialamwana et l'avenue du rond-point Rectorat. Un motif de satisfaction pour plusieurs habitants de la ville diamantifère. Esther Ndalafina, reportage.
Les travaux de modernisation de l'avenue Inga avancent à une vitesse de croisière. L'avenue Inga, un tronçon de la RN1, aura 4 bandes, dont 2 allées et 2 bandes retour, d'après l'Agence congolaise des grands travaux ACGT. Après les travaux d'assainissement effectués par la brigade 803 de l'office des routes, une partie de l'avenue Inga a reçu sa première couche d'imprégnation, une situation qui a créé un engouement de part et d'autre de cette avenue. Cédric Kabanda, Kenda ne cache pas sa joie.
Ils sont en train de suivre aussi à la loupe le travail que nos amis sont en train de faire.
Selon Marie Chika, l'asphaltage de cette route a changé l'aspect de la ville.
Nous remercions notre président pour la bonne volonté. Mais avant, on n'avait pas de boulevard sur la ville de Bichon. Nous sommes contentes, nous sommes reconnaissantes.
Victime d'un accident de trafic routier suite au mauvais état de la route, Ruth Moïse s'est réjouie des travaux qui rendent actuellement la circulation fluide.
C'est une avenue qui était très sale. Bah, j'étais enceinte. J'avais connu un accident dans l'avenue.
Signalons que les travaux de modernisation ont également repris sur les avenues Tchalamwana, celles qui mènent vers le rectorat de l'université de Mbujimayi et Monseigneur Kongolo. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Parlons sport à présent. Cannes Dames Maroc 2024, les Léopards Dames de la RDC entrent en lice ce dimanche 6 juillet à 15h, heure de Kinshasa, au stade El Bachir de Mohamedia contre les Lions de la Teranga du Sénégal, logés dans le groupe A avec le pays hôte, le Maroc et la Zambie, qui ont fait un match nul, 2-2 hier. Mais pour question de prime, les Congolaises menacent de boycotter cette rencontre malgré l'enveloppe mise à leur disposition par le gouvernement. Vanessa Nkongolo.
Selon des sources sur place, les joueuses congolaises ont refusé de s'entraîner la veille de cette rencontre inaugurale du groupe A pour protester contre le non-paiement de leur prime de qualification. Aux dernières nouvelles, le parsec du ministre des Sports leur a rendu visite la nuit à 23h. Il a remis la prime de préparation et la prime de match de la CAN, une somme de $4,500 à chacune, en raison de $2,500 pour le match de la CAN et $2,000 pour les stages. Et donc, elles n'ont toujours pas reçu la prime de qualification et par conséquent, les joueuses n'ont pas encore confirmé si elles vont jouer le match ou pas. Une autre source renseigne qu'elles vont quand même jouer. En cas de boycott, la RDC perdrait les matchs par forfait et s'exposerait à de lourdes sanctions de la part de la CAF, notamment des amendes et une possible exclusion de prochaines éditions.
Actualité internationale.
Les exportateurs du pétrole réunis au sein de l'OPEP Plus déjouent les prévisions du marché en annonçant lors d'une réunion samedi 5 juillet une nouvelle hausse des quotas plus importante que prévue en août. Les 8 pays participants mettront en œuvre un ajustement de la production de 548 000 barils par jour en août 2025 comparé à juillet contre 411 000 initialement prévus par les analystes, a indiqué l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dans un communiqué évoquant la faiblesse des stocks de pétrole.
L'invité.
Nous sommes à Bounia, dans la province de l'Ituri. 30 jeunes homosexuels et transgenres sont formés comme pères éducateurs pour sensibiliser leurs semblables aux modes de contamination et de prévention du VIH-SIDA. Il s'agit d'un programme exécuté par le Centre Convivial de Bounia qui vise à impliquer toutes les couches sociales dans la lutte contre la propagation de cette maladie à travers l'Ituri, où le taux de prévalence est de 4,8% selon des chiffres officiels. Docteur Pascal Kabaseke, médecin responsable du Centre Convivial de Bounia, s'entretient à ce sujet avec Jean-Claude Loki.
Docteur Pascal Kabaseke, bonjour.
Bonjour, Jean-Claude Loki.
Vous formez 30 jeunes donc pour être des pères éducateurs, des jeunes que vous utiliserez en tout cas dans les proches avenirs pour sensibiliser leurs amis, leurs collègues de comment se prévenir ou comment limiter la propagation de cette maladie. D'où est l'idée de pouvoir former ces jeunes?
Aujourd'hui, le VIH-SIDA n'est pas un tabou. Le VIH-SIDA, on s'est rendu compte que ceux qui transmettent plus le VIH-SIDA, c'est cette population clé, constituée des professionnels des sexes, des transgenres, des IDI, c'est-à-dire les utilisateurs de drogues injectables et ceux qui, les hommes qui font des rapports sexuels avec les hommes. Ces gens-là sont, c'est une couche la plus cachée. Suite à leur stigmatisation, ils se sont un peu restreints de cette vie. Ils sont un peu loin, cachés de tout le monde. Ce qui fait que cette couche-là transmet plus le VIH-SIDA que la population en général. Ce qui fait que nous avons eu l'idée de faire appel aux jeunes gens appartenant à cette catégorie de personnes pour leur former leur capacité afin qu'ils puissent appeler les leurs, leurs pères, dans cette lutte que nous avons de la... contre le VIH-SIDA. Parce que si vous voyez le taux de prévalence au niveau de la population générale, c'est 1.2, 1.4. Tandis que la population clé, ça va de 3.4 à 7%. Vous avez essayé un peu élevé. Ce qui fait que nous, ici, au niveau de Bounia, au centre convivial Bounia, nous avons des. Avant, il y avait des pères éducateurs. Recyclons aujourd'hui et nous faisons appel aux autres. Afin d'élargir un peu notre champ de travail, essayer de sensibiliser le maximum possible de ces pères-là, de cette population clé, toujours dans la lutte contre le VIH et SIDA.
Et en quoi, docteur Pascal, c'est un danger par exemple, cette population? Sont-ils nombreux, ces jeunes qui se cachent au sein de la société pour qu'ils soient un danger pour la transmission de VIH et SIDA?
Parce que c'est une couche qui est cachée, c'est un groupe caché d'individus.
Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que vous avez des statistiques?
Ils sont très nombreux. Parce qu'il y a des ceux qui n'en avons pas encore atteint, que nous voulons atteindre ces groupes-là. Ils vivent ici à Bouni.
Comment arrivez-vous, docteur, à les atteindre? Car vous les connaissez, on sait que ce sont des gens qui se cachent, ils vivent dans la clandestinité.
Nous formons aujourd'hui leurs pères. C'est leurs pères qui ont leur cherche. Parce que leurs pères savent là où ces gens-là vivent.
Pensez-vous, tant que d'autres parmi eux continueront à se cacher dans la société, cela risque encore de rendre difficile votre travail?
Oui, ces gens-là constituent vraiment un danger. Il faut qu'on les connaisse. C'est vrai, nous travaillons dans le principe de confidentialité. Nous ne pouvons jamais relever ou dévoiler leur adresse ou leur nom ou ceci ou cela, leur identité. Hein, nous travaillons dans le principe de la confidentialité. C'est-à-dire, le fait qu'ils se cachent, en tout cas, ça constitue un danger.
La crainte, c'est là où certains observateurs, que en même temps que vous faites cette sensibilisation, mais aussi vous faites la publicité de ces personnes, vous ne connaissez pas que cela peut être le risque de vous attirer des animosités, de la méfiance, et des représailles des autres membres de la communauté. Quoi.
En fait, nous, chez nous, par exemple, peu importe que ces gens-là vivent, ça, c'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de trouver ces gens-là, les sensibiliser, les dépister. Les restes là, non, leur façon de vivre, la décision qu'ils ont prise de leur vie ou de leur manière de se considérer tel ou tel ou dans telle catégorie, ça c'est pas notre problème. Ça c'est vraiment pas notre problème. Notre problème, c'est la lutte contre les VIH-SIDA dans ce groupe le plus caché.
Jusque-là, il n'y a que des hommes ou des garçons qui viennent, mais les filles, les femmes, jusque-là, se cachent encore.
Si, nous avons aussi les femmes. Bon, pour le moment, nous avons d'abord les hommes, mais petit à petit, il y a aussi des femmes, hein, des femmes aussi, qui, d'une façon ou d'une autre, elles passent au centre, c'est vrai, elles ont un peu peur, il y a la crainte, mais nous essayons de rassurer ces gens-là.
Quel dernier message que vous leur adressez à l'occasion de cette sensibilisation que vous menez pour limiter la propagation de VIH-SIDA à travers les tueries?
La meilleure chose, c'est se faire dépister. Mieux vaut connaître son état sérologique que de vivre cette peur, de l'intérioriser. Peu importe ce que ces gens-là vivent. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la sensibilisation et le dépistage contre le VIH. Nous voulons surtout atteindre cet objectif 95-95-95 d'ici 2030. Parce que dans cette lutte-là, nous ne sommes pas seuls. Il y a PNLS, il y a PNMLS dans ça. Il y a aussi ANORS. ANORS qui est un regroupement des ONG locales qui lutte aussi contre le VIH.
Docteur Pascal Kabaseke, je vous dis merci.
Merci beaucoup.
Le médecin responsable du centre convivial de Bounia répondait aux questions de Jean-Claude Loki. C'est la fin de ce journal coordonné par Jean Gandou, Pierre Diassino à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.